17e cours.
Entrer dans la pensée d'un auteur, c'est vrai pour tous les auteurs, mais c'est particulièrement vrai pour Aristote parce que, de fait, il a une pensée très analytique. Il a une pensée très analytique et une pensée aussi qui est à des niveaux différents. C'est peut-être cela que nous avons le plus de peine à comprendre. C'est qu'il y a vraiment des lectures différentes à des niveaux différents. Il n'a pas du tout comme une vision d'ordre dialectique qui serait unilatérale, il a toujours une vision selon des points de vue différents, et donc une analyse qui implique des lectures à des niveaux différents, des niveaux différents d'intelligibilité. Et c'est Fanny Beyrouth. Donc, profondément, c'est ce que les autres diront de pensée analogique, et elle fera exprimer, nous verrons, quand nous serons revenus au Theta, c'est à ce moment-là où Aristote exprimera vraiment sa pensée. Il attendra la découverte de l'acte pour l'exprimer. Alors il faudrait aujourd'hui, vous voyez, résumer un peu tout ce que nous avons fait. Parce que le terme, je ne vais pas le faire, je vais plutôt avancer. Je voulais terminer le livre Theta aujourd'hui, je crois que je n'y arriverai pas, étant donné l'importance du dernier chapitre. Je sais qu'on le verra au séminaire, mais comme au séminaire tout le monde n'est pas là, je suis obligé quand même d'en dire un petit mot. Mais je serai assez bref. Alors voyez. Essayons à la fois de résumer ce que nous avons vu et puis de continuer un peu le chapitre 16 et 17. Nous avons, je crois, compris que les livres d'Aristote, je ne sais pas synthèse, nous la ferons au terme de l'année, c'est-à-dire à la fin du semestre d'été, comment les livres d'Aristote de la métaphysique avaient chacun leur tonalité. Le livre grand A, le livre petit A, le livre grand A c'est l'exhortation par rapport à tous les philosophes qui sont avant, le livre petit A qui est une exhortation très particulière sur le sens de la vérité et le sens de la philosophie sur la vérité, le livre bêta qui est un livre de topique et dialectique sur tous les problèmes et tous les apports qui se posent, le livre gamma qui est un livre encore de perspective critique, de réflexion critique, sur ce que représente cette première science qui est la science de l'être en tant qu'être et qui donc doit regarder aussi les premiers principes. Donc nous voyons que chacun de ces livres a une tonalité différente, vous voyez. C'est la différence quand vous lisez aujourd'hui un auteur, il y a des chapitres différents. Ici ce ne sont pas des chapitres, ce ne sont pas des livres, donc c'est presque chacun d'entre eux ont de fait une orientation particulière. Mais je crois qu'il y a quand même à travers tout cela, malgré la très grande diversité, il y a quand même une certaine unité. Et c'est cela qu'il faut toujours se poser. Je vous l'avais dit au début, je ne vais pas répéter après, je vous le répète maintenant, c'est que c'est important de voir à travers cette diversité, de découvrir l'unité. Or, on ne peut pas nier que quand on est en face du livre Zeta, on est en face, Aristote du reste dit lui-même, le livre Zeta représente pour lui ce qu'il y a de principal à la connaissance de la philosophie première. Puisque le tiesti de l'être et le tiesti de l'ousia s'identifient. Or, de fait, il nous a présenté cette philosophie première comme la recherche de ce que c'est que l'être. Mais rechercher l'être, ce n'est pas décrire l'être, puisque ça ne peut pas se décrire, c'est d'essayer de découvrir en profondeur ce qu'est l'être. Or, l'être se donne en premier lieu dans l'ousia, et donc c'est l'ousia que nous devons regarder en premier lieu. Nous ne comprendrons tous les autres aspects de l'être qu'à partir de ce premier aspect fondamental. Autrement dit, à partir de l'ousia, nous comprenons la qualité, la quantité. Et Aristote ne les traitera pas. Et ce qui est aussi très significatif. Ça montre bien qu'au fond, il va à l'essentiel. Et comme quelqu'un qui creuse, ce sont ceux qui suivent qui peuvent regarder les dentelles. N'est-ce pas ? Mais celui qui creuse donne les choses essentielles. Et je crois que ça c'est très significatif. Aristote va regarder le point de vue de l'être avant tout par l'ousia, il ne fera pas un traité de la qualité. On aimerait qu'il y ait un traité de la qualité au niveau métaphysique, c'est très très intéressant. Il nous a donné que dans le livre Delta, ce qu'il considérait comme l'essence multiple de la qualité. Et quand vous lisez le livre Delta sur la qualité, vous vous apercevez que tout ce qu'Aristote dit sur la qualité dans les autres livres ne correspond pas au livre Delta. Et donc, ça prouve bien qu'il a un regard métaphysique sur la qualité qui est autre que ce qu'il dit dans la physique, que dans les traités sur le vivant, ou même dans le traité d'éthique. Alors, on voit très bien que, de fait, comme un homme qui saisit les choses essentielles, ne s'arrête pas aux choses secondaires. parce que ça nous apporterait pas beaucoup plus de sens de l'être de regarder la qualité. Ce serait très important pour nous pour voir tout le rayonnement de la signification de l'être, mais ça ne nous apporterait pas beaucoup plus. Et je crois que pour nous, ça nous apporterait parce que nous avons besoin d'avoir les autres modalités. C'est très important de regarder la qualité pour comprendre un peu mieux ce que c'est que l'être et pour mieux comprendre l'aspect qualitatif de l'être. Mais on a de la peine, je veux dire, au sens rigoureux, si on saisissait ce que c'est que la substance, on n'en a plus besoin. Vous voyez ? D'une certaine manière. D'une certaine manière. Étant donné notre condition humaine, nous en avons toujours besoin. N'est-ce pas ? Mais Aristote considère qu'ayant saisi la substance, il peut aller plus loin. Ayant saisi la substance, il ira plus loin. Alors, dans ce livre Zeta, je crois que vous l'avez déjà saisi, ce livre Zeta que nous voyons est un livre très négatif. Puisqu'Aristote ne cesse de montrer que la substance n'est pas ceci, n'est pas cela, qu'elle est toute proche de ça, mais qu'elle n'est pas cela. Constamment, en cherchant le qui est-il de la substance, Aristote nous montre l'aspect constamment négatif. Ce qui montre très bien comme une saisie d'une réalité ou d'un principe qui transcende ce que nous saisissons immédiatement. Nous saisissons beaucoup plus immédiatement ce que c'est que le sujet que ce que c'est que la substance. Nous saisissons beaucoup plus immédiatement ce que c'est que la forme que ce que c'est que la substance. Et alors, c'est toujours pour nous montrer un au-delà. Si Aristote dit que le tiesti de la substance, ce n'est pas le sujet, c'est pour nous montrer qu'à travers le sujet, nous devons saisir la substance. Elle est trans-sujet, d'une certaine manière. Elle est au-delà du sujet. Elle est trans-forme, ou métaforme. Elle est au-delà de la forme. La forme doit nous aider à saisir ce que c'est que la substance, mais la substance ne peut pas s'identifier à la forme. Elle ne peut pas s'identifier au sujet, elle ne peut pas s'identifier à la forme. Elle ne peut pas s'identifier à la forme autotienne. Elle ne peut pas s'identifier non plus à l'universel, et ainsi de suite. Alors nous avons maintenant la dernière négation dans ce chapitre 16. Et puis le chapitre 17, c'est le grand chapitre positif qui correspond au premier chapitre. 1 et 17 se tiennent. Ça c'est très très net. Donc tout le livre Zeta est encadré par une certaine position positive du point de départ, la substance et l'être dit d'une façon première, et par le livre 17, qui est le grand livre de l'induction. Une induction extrêmement rapide. Mais le chapitre 16, que nous allons voir tout de suite maintenant, très rapidement, le chapitre 16 nous montre que nous ne pouvons pas identifier l'un et l'être et la substance. Alors vous voyez que ce chapitre 16 doit se voir dans ce qu'Aristote posait comme question dans le livre Theta, au chapitre 11, 1001a. Prenez ce point de vue, parce que c'est intéressant à voir comment il y a 1001a 13. Dans Tricot, page 155. De toutes les questions, la plus difficile, dont la solution est la plus nécessaire pour la connaissance de la vérité, c'est de savoir si, enfin, l'être est l'un, sont substance des choses. Donc nous voyons bien qu'il a traité dans le livre Beta comme une des choses très difficiles à découvrir si la substance s'identifie à l'être, s'identifie pas à l'être. Si la substance s'identifie à l'un, s'identifie pas à l'un. Et là, vous voyez bien que le chapitre 16 ici que nous allons voir maintenant, c'est donc la réponse de ce qu'il considère comme la plus difficile des questions. Parce qu'au fond, c'est là où nous évitons bien la différence entre l'ousia et l'être. L'ousia et l'un. Or, l'un est l'ousia est identifié avec l'un chez Parménide, on pourrait dire, avec l'être, même si Parménide n'emploie pas le terme ousia, de fait c'est l'être et l'un, chez Platon aussi. D'une certaine manière, l'un, l'être et l'ousia ne font qu'un. Alors il s'agit encore ici d'être en face de Platon. Et c'est toujours très difficile. Chaque fois qu'Aristote est en face de Platon, il a un petit frémissement. Et ça, on le voit bien. Parce qu'il s'agit d'attaquer une position extrêmement forte. Il s'agit de voir exactement où Platon n'a pas saisi, où il y a une confusion. Alors c'est très très significatif, il a toujours souligné que c'était justement un des problèmes les plus difficiles. Il a dit précédemment, quand il s'agissait de montrer la différence entre l'ousia et la forme, que c'était particulièrement difficile. Ici, nous voyons aussi que c'est particulièrement difficile. Alors, rapidement, voyons ce qui est dans ce chapitre 16. Après avoir montré que les universaux ne sont pas des substances, ainsi que les idées. Aristote, au début du chapitre 16, note, sans s'arrêter, que les êtres en puissance ne peuvent être substances. Il le dit en passant. que les êtres en substance, les êtres en puissance ne peuvent pas être substance. Et nous comprenons pourquoi, évidemment, on n'y traite pas le sujet ici, parce que ce sera à propos de l'acte et de la puissance que nous comprendrons parfaitement, mais il le souligne seulement. Et ceci à cause de toute la position qu'on pourrait dire, mais il faut traiter les êtres en puissance comme être des substances. On comprend très bien pourquoi, parce que l'être en puissance est un être second. Or, la substance est l'être premier. Toujours le même levier, hein. Toujours le même levier que la substance est l'être premier. Or, de fait, les êtres en substance sont des êtres qui sont seconds. Alors, immédiatement après, il affirme, c'est au début du chapitre 16, puisque l'un aussi se dit de la même façon que l'être. Vous vous souvenez, nous l'avons vu, Aristote a dit dans le livre Gamma, que l'un est l'acolyte de l'être. Faut jamais oublier cette expression d'Aristote. L'un est l'acolyte, c'est-à-dire qu'il suit. Toujours, dès qu'il y a un, il y a l'être. Chaque fois qu'il y a division de l'être, il y a division de l'un. Les divisions de l'être et les divisions de l'un sont tout à fait parallèles, puisque l'un est l'acolyte de l'être. Vous pourriez dire aussi, vous voyez, que l'un manifeste l'être, les deux choses. Hein. Il est propriété, au sens très fort. L'un est propriété de l'être, pour Aristote. Donc il manifeste. Et c'est pour ça que pour nous, c'est toujours par l'un qu'on va saisir l'être. On va pénétrer plus avant dans l'esprit, nous le verrons avec le chapitre 17. Donc, puisque l'un aussi se dit de la même façon que l'être, de ce qui est un, la substance est une, et que les êtres dont la substance est numériquement une sont un quant au nombre, il est manifeste que ni l'un ni l'être ne peuvent être substance des choses, comme il en va parallèlement de l'être de l'élément et de l'être du principe. Donc voilà la grande affirmation. On ne va pas identifier substance et être, on ne va pas identifier être et un. On ne peut pas dire que le TST de la substance, c'est l'être. On ne peut pas dire que le TST de la substance, c'est l'un. Bien qu'il reconnaisse que l'être et l'un sont présents dans la substance, c'est bien évident. N'est-ce pas ? Aristote précise, parmi ces choses, l'être et l'un sont davantage substance que le principe, l'élément et la cause. Et pourtant, ce ne sont pas encore là des substances. Si toutefois, aucune chose commune n'est substance. Voilà la grande raison. Donc, Zeta 16, 1042, 22. Donc, voyez, la grande raison qu'il donne, c'est que tout ce qui est commun ne peut pas être substance. C'est le grand argument par lequel il montrait que l'universel ne pouvait pas être la substance. Donc c'est toujours la même raison qu'invoque Aristote. Tout ce qui est universel, en tant qu'il est commun, ou si vous voulez, tout ce qui est commun, répugne à être substance, puisque la substance ne se trouve pas, eu par qu'elle, ne se trouve en aucune chose qu'elle-même. Et ce qui la possède est dont elle est substance. La substance est unique à chaque chose. La substance est chaque chose. Donc, si la substance est chacun, la substance ne peut pas être universelle. Si la substance était universelle, elle se trouverait nécessairement en plusieurs. Elle serait commune à plusieurs. Donc, elle envelopperait plusieurs. Donc, elle ne peut pas être chacun. Or, l'être s'attribue de multiples manières. Faut la cause. Si l'être s'attribue de multiples manières, si l'être n'est pas seulement le point de vue de la qualité, de la quantité et tous les accidents, on ne peut pas identifier substantiel. Et dès que vous comprenez que l'être est dit pour la cause, c'est-à-dire dit de multiples manières, vous ne pouvez pas identifier substance et l'être. On voit immédiatement que c'est impossible d'identifier les deux. Donc le principe, vous voyez, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est simplement l'application. Mais c'est quand même très important, il l'a dit, puisque c'est une des choses très difficiles. Je crois qu'il n'insiste pas parce qu'il est un peu fatigué, c'est pas le chapitre 16. Alors, on va voir le chapitre 17 le plus vite possible. Parce qu'on aurait aimé une argumentation un tout petit peu plus serrée par rapport à l'être. Or, il prend ici l'argumentation solide, ce qui est très rare. Alors qu'il avait dit au livre Bêta que c'était particulièrement difficile. S'il dit au livre Bêta que c'est particulièrement difficile, on aurait aimé une argumentation un petit peu plus directe. Or, je crois que l'argumentation directe ne sera donnée qu'avec le livre, le chapitre 17. Revenons aux partisans des idées. Aristote précise, alors c'est toujours, hein, les partisans des idées sont toujours là présents. Hein. On l'a constamment vu. Aristote précise, les partisans des idées, en un sens, ont raison de parler de séparation pour celles-ci, s'il est vrai qu'elles sont des substances.
mais ils ont tort d'appeler idée ce qui est un relativement à plusieurs. La raison en est qu'ils ne peuvent pas rendre compte de la nature de telles substances incorruptibles en dehors des substances particulières et sensibles. Donc voyez bien qu'Aristote revient sur cette idée que les formes idéales ne peuvent pas être les substances telles qu'il les entendent. Il dit qu'il y a bien quelque chose de vrai, parce que les formes idéales, en tant qu'elles sont séparées, sont bien des substances. Mais ils ont tort d'appeler idée ce qui est un relativement à plusieurs. Vous voyez, l'idée qu'on avait vue à propos de la participation au chapitre précédent, qui revient ici. Ils ont tort d'appeler idée ce qui est un relativement à plusieurs. Et là, par le fait même, ça ne peut plus être substance. La raison en est qu'ils ne peuvent rendre compte de la nature de telles substances incorruptibles en dehors des substances particulières. Ceci montre bien que pour Aristote, il est essentiel à la substance d'être séparé, d'être autonome, un être qui n'est pas relatif. Et c'est peut-être là où nous saisissons, il l'a déjà dit précédemment, et il reprend ici ce point de vue-là, c'est que de fait, ce qui empêche de dire que les idées sont les substances, c'est qu'il y a un lien de participation entre les idées et les réalités sensibles que nous voyons. Et ceci empêche de dire que ce soit des substances. Donc, Aristote souligne ici que la substance implique d'être séparé, d'être autonome, un être qui n'est pas relatif, c'est-à-dire un être produit. C'est du reste bien à cause de cela que l'universel, qui est un être essentiellement relatif, ne peut pas être substance. Le philosophe achève ce chapitre 16 sur cette conclusion négative. Ainsi donc, il est clair qu'aucun des universaux n'est substance et qu'il n'y a absolument aucune substance composée de substance. Voilà la grande conclusion de tous ces chapitres, et voyez que ce chapitre 16, conclut en cette manière-là, montre bien qu'Aristote a regardé l'un et l'être comme les universaux les plus premiers. Il a regardé l'un et l'être dans leur capacité d'être attribués à eux, donc d'être comme, et par le fait même, en opposition avec le point de vue de substance. Alors, voyons maintenant, entrons un tout petit peu dans ce chapitre 17, nous y reviendrons peut-être, de manière de renouer les deux semestres. Mais entrons un peu dans ce chapitre 17. Hein. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous invite de lire. Je vous inviterai aussi de glisser ce que tricomé, la substance et la forme. Ça dévie absolument la perspective. On ne peut pas se fier à tricot, n'est-ce pas ? Alors, il faut regarder la... Parce que si on se fie à tricot, on aurait un drôle d'Aristote. Un Aristote tout à fait enveloppé d'un tricot. On est sûr. C'est vraiment tout à fait quelque chose de tout à fait spécial. Il y a une couverture qui fait qu'on ne voit plus très bien la physionomie d'Aristote. C'est dommage, parce qu'on aurait mieux aimé une traduction brute, difficile à comprendre, mais une traduction littérale. Je crois que c'est comme ça qu'il faut traduire Aristote, pour une traduction littérale, même si ce n'est pas entièrement. Alors, capoté en os, on met la glose. Vous voyez ? Il faudrait faire ça. Je crois qu'il faudrait une traduction qui soit très littérale d'Aristote, et bien alors, ensuite, qu'on mette les interprétations. Parce qu'au fond, c'est une interprétation. Alors, Tricot fait une interprétation, et il se trompe quand il dit au chapitre 17, la substance et la forme. Vous voyez ? Parce qu'alors, ça deviendrait vraiment contradictoire avec tout ce qu'Aristote a dit précédemment. Vous nous a montré que la substance n'était pas la forme. Alors, si maintenant Aristote revient, vous allez voir hein, comment Tricot s'est trompé. Il y a un petit piège, évidemment, dans ce chapitre 17. Et on peut très bien, d'une certaine manière, dire que la substance est forme. Mais Tricot prend une conclusion pour le principe. Oui. Dans ce chapitre 17, Aristote dit que l'âme qui est forme est substance. Tricot conclut que la substance est forme. Et Aristote dit en effet que l'âme est l'âme opposée au corps. L'âme est bien la substance du corps. Or, l'âme est la forme du corps. Donc, si l'âme est la substance du corps et que l'âme est la forme du corps, on dit donc que la substance est forme. Alors, c'est vrai dans un cas, mais ce n'est pas vrai à l'égard du pied de la substance. C'est très très significatif, c'est intéressant à voir, parce que c'est toujours intéressant de voir comment on arrive à dire ça, parce que Tricot a quand même lu il l'a traduit. Donc il l'a vu. Alors s'il l'a traduit, il a fait quand même attention que de fait Aristote disait que c'était pas quand même la forme. Et quand il arrive au terme à dire substance et la forme. C'est quand même très curieux. Alors dans ce chapitre 17, il y a ce moment précis où Aristote rappelle, c'est quand même très intéressant, rappelle que l'âme est substance du corps et que l'âme est forme du corps. Aristote dira du reste exactement la même chose dans le premier livre du Péripsychès. Dans le premier livre du Péripsychès, Aristote, le début plus exactement du chapitre du livre 2, le début du livre 2 du Péripsychès, Aristote, donnant la définition de l'âme, dira que l'âme est bien substance et forme. Et ça, ça ne veut pas dire que la substance, que le qui est la substance, c'est la forme. Vous voyez ? Que telle substance soit forme relativement au corps. C'est très vrai. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que la substance soit la forme. Parce que Aristote ne dit jamais que la substance, c'est l'âme. Mais il dit que l'âme est substance. C'est pas la même chose. Faut pas identifier les deux. Que de fait, une précision l'âme par la substance, c'est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas définir la substance par l'âme. Vous voyez, tout simplement, faites ce petit parallélisme pour que vous compreniez, parce que c'est toute une question de définition et c'est une chose importante d'un point de vue d'Aristote. L'âme va se définir face à la vie. Alors que la substance, nous la définissons face à l'être. L'âme se définit comme le premier dans l'ordre de la vie. Le premier dans l'ordre de la vie, le principe dans l'ordre de la vie, c'est l'âme. Le principe dans l'ordre de l'être, c'est la substance. C'est le premier dans l'ordre de l'être. Si vous identifiez les deux, oui, c'est-à-dire que vous dites la substance est l'âme, vous identifiez être et vie. Tout l'effort d'Aristote, c'est de montrer que l'être n'est pas la vie, mais que la vie implique l'être, c'est une évidence. Donc vous pouvez très bien définir l'âme par la substance, c'est très possible, puisque l'être est une notion beaucoup plus générale que la vie. Donc vous pouvez très bien vous servir de la substance pour préciser ce que c'est que l'âme. Et vous précisez ce que c'est que l'âme à la fois par la substance, et par la forme. Pourquoi ? Parce que la forme s'oppose à la matière. Et que l'âme s'oppose au corps. Puisque l'âme s'oppose au corps, je dirais que l'âme est comme la forme du corps. Et que le corps est comme la matière. Alors vous êtes en philosophie de la nature. Perspective de la philosophie de la nature. Dans la perspective de la philosophie de la nature, nous avons forme et matière. Nous avons âme et corps. Dans la perspective de l'être, nous l'avons vu, nous ne pourrons plus prendre cette distinction forme et matière, parce qu'alors la matière ne serait pas l'être. La matière serait du non-être. Et nous retomberions dans l'erreur de Platon. La matière est considérée comme non-être. Il faut donc dépasser cette distinction matière et forme et essayer de préciser la substance directement par l'être. Je ne peux pas définir la substance par la vie. Si je définis la substance par la vie, je définirai la substance par l'âme. Et j'oublierai que l'être est quelque chose de plus fondamental que la vie. Je ne peux pas m'arrêter à la vie, parce que de fait, la vie n'est pas exhaustive à la réalité. Et que l'être est quelque chose de plus fondamental que la vie. Donc je ne peux pas identifier le point de vue de la substance et le point de vue de l'âme, parce que je ne peux pas définir la substance par le point de vue de la vie. Vous voyez, là, nous touchons quelque chose de très important dans la philosophie d'Aristote, et l'erreur de dire substance et forme, c'est justement ne pas comprendre ce que dit Aristote. Donc, au début du chapitre 17, qui termine ce livre, Aristote affirme que si on veut savoir ce qu'est la substance et quelles doivent être ses modalités, il faut, pour le dire, prendre à nouveau autre chose comme principe. Il a considéré que tout ce que nous avions dit jusque maintenant ne pouvait pas l'admettre. Ceci indique bien que tout ce qui a été dit précédemment n'aboutit qu'à des conclusions partiellement négatives qui ne nous disent pas parfaitement ce que c'est que la substance, mais nous montrent certains aspects de la substance. Il y a une parenté entre la substance et le sujet, il y a une parenté entre la substance et la forme, mais nous ne pouvons pas identifier la substance et le sujet, nous ne pouvons pas identifier la substance et la forme. Mais il y a une parenté. Autrement dit, la substance jouera constamment la fonction du sujet. La substance est bien là où la quidité est parfaitement réalisée. La substance est bien, dans notre monde, la forme première, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on dira forme substantielle. Et le point fort substantiel n'est pas d'Aristote, hein, ça viendra après. Le point de départ de cette nouvelle recherche est celui-ci. Puisque la substance est un principe et une certaine cause, il convient de prendre cela comme point de départ de notre enquête. Donc, on va partir non plus par tel ou tel aspect qui a été dit précédemment, mais on revient au point de départ. Au point de départ, je vous avais dit, la grande chapitre premier. Au point de départ, Aristote considère que la substance, c'est l'être pris de façon primordiale, de façon principale. Donc, si la substance est l'être pris de façon primordiale, la substance est donc principe. Et alors là, il le donne comme une espèce de vision première. La substance, on ne peut la découvrir que comme on découvre un principe. Ceci, à première vue, peut nous étonner. Puisqu'Aristote, au chapitre précédent, avait déclaré que le principe et la cause ne sont pas des substances. Il l'a dit textuellement à la fin du chapitre 16. Si nous sommes attentifs au contexte des chapitres 16 et 17, pour bien saisir la signification de ces deux affirmations, où apparemment il semblerait qu'il y ait une contradiction. Bon, puisque au chapitre 16, il dit que la substance ne peut pas être principe, et qu'ici, il nous dit qu'il faut prendre le point de vue du principe et la cause. Alors il semble qu'il y a une contradiction. Ça arrive constamment pour Aristote, ces choses-là. Bon, ce sont des notes. Alors il peut y avoir des contradictions dans des notes. Et puis Aristote est très très précis dans son point de vue. Et parce qu'il est très précis dans son point de vue, il peut y avoir des contradictions en apparence. Ça arrive, vous savez bien. Ça lui est égal, ça. Il suffit qu'on comprenne. Il suffit d'être intelligent. Au chapitre 16, Aristote montre que le principe et la cause, en tant que notion commune, ayant diverses significations, ne peuvent être substance. C'est en fonction de l'aspect commun. Le principe est quelque chose de commun. Peut se réaliser dans des grandes idées de choses. En tant que commun, en tant que notion commune, la substance ne peut pas être principe, ne peut pas être principe et substance. Ne peut être principe et cause. Au chapitre 17, il montre que la substance est un principe et une cause. C'est pas la même chose. Vous voyez? C'est la même chose que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, l'âme est substance, et vous ne pouvez pas dire que la substance est l'âme. Et bien, nous pouvons faire exactement le même raisonnement. Nous ne pouvons pas dire que le principe est substance, mais nous pouvons dire que la substance est principe. La réfléchissez sur la différence entre les deux. C'est au fond très simple comme affirmation, c'est tout à fait autre chose. Puisque d'un côté, on ramène la substance au principe, et d'autre côté, on se sert du principe pour préciser ce que c'est que la substance. Donc ceci reprend l'affirmation première du début du livre Zeta. Je crois que c'est pas qu'il faut dire. L'Ousia est l'être en premier lieu. Or, l'être premier est principe et cause. Principe et cause peuvent donc être considérés de deux manières, soit comme des notions universelles, soit comme exprimant ce qu'il y a de premier dans la réalité. Et donc, comme ce principe propre, comme premier dans la réalité, comme nous montrant le noyau central de la réalité, la chose la plus absolue. Si la substance est un principe et une cause, la recherche de la substance revient donc à celle du principe et de la cause, ou d'un principe et d'une cause, au sens le plus fort, puisqu'il s'agit d'un principe et d'une cause dans l'ordre de l'être, qu'elle est première dans l'ordre de l'être. C'est donc vraiment la recherche du pourquoi, puisque tout principe est un pourquoi. Et alors nous avons là, si nous avions le temps, nous y reviendrons parce que ça vaut la peine, nous avons là toute une petite réflexion sur la méthode et la recherche du pourquoi. C'est très intéressant à voir ça. Au fond, je crois aussi, c'est comme toujours, quand on est en face de quelque chose de difficile, alors on réfléchit un instant. Or, rechercher le pourquoi revient toujours à se demander pourquoi une chose se trouve dans une autre. Quelle est la signification du pourquoi? Comment saisir le pourquoi? En effet, rechercher pourquoi l'homme est musicien. Pourquoi l'homme musicien est homme musicien? Ou bien c'est rechercher ce que nous avons dit, à savoir pourquoi l'homme est un musicien, ou bien c'est chercher autre chose. Donc, autrement dit, on ne cherche le pourquoi que quand on est en face de quelque chose de complexe. Quand on est en face de quelque chose de simple, on ne recherche pas le pourquoi. Donc, autrement dit, avant d'attaquer le sujet, Aristote commence par une réflexion pour se dire Rechercher la substance, c'est rechercher ce qu'est l'être. C'est donc chercher le principe franc. Pour Aristote, la découverte d'un principe se fait toujours par mode d'induction. Il nous le dit dans les premiers analytiques, il nous le dit dans les secondes analytiques. Le principe n'est pas quelque chose que nous saisissons directement. Nous n'avons pas une intuition des principes. Donc, quand il dit que la substance est principe et cause, Aristote veut nous dire que nous ne pouvons pas saisir immédiatement ce que c'est que la substance. La substance n'est pas ce que nous touchons, c'est pas ce que nous voyons. La substance est au-delà et seule l'intelligence peut la découvrir. Puisque le propre de l'induction, c'est justement de permettre l'intelligence à découvrir un principe qui est au-delà de l'expérience. Donc, puisque de fait, la substance est cause et principe, il s'agit de voir comment nous allons pouvoir découvrir ce principe. Et alors Aristote prend quelque chose d'extrêmement simple, déconcertant au point de départ. Aristote précise encore, puisque ce qui est composé de quelque chose est tel que le tout est un, il faut rechercher la cause de cette unité, c'est-à-dire la cause de son être, c'est-à-dire sa substance. Donc nous revenons à cette idée que l'un et l'être sont toujours ex aequo, c'est-à-dire que l'un est l'acolyte de l'être. Si nous recherchons donc le principe de l'être, c'est là où il y a la plus grande unité. Il s'agit donc de chercher la cause de l'unité. Rechercher la substance, c'est rechercher la cause de l'unité d'un être. Nous ne savons pas d'être composé, il s'agit de chercher la cause de l'unité d'un être. Aristote illustre la manière dont notre intelligence saisit la substance des réalités composées en se servant de deux exemples, celui de la syllabe et celui de la chair. La syllabe et la chair possèdent l'un et l'autre une unité irréductible à leurs parties composantes. Il n'y a pas identité entre « pas » d'une part et « p » et « a » d'autre part, comme la chair n'est pas identique au feu et à la terre, bien qu'elle implique le feu et la terre. La syllabe est nécessairement quelque chose de distinct des lèvres qui la composent, et la chair n'est pas seulement le feu, du feu et de la terre. C'est quelque chose d'autre. Si ce quelque chose qui fait l'unité B, fa, l'unité de B et A, est un élément, on reviendra au même raisonnement, on ira à l'infini. Si ce quelque chose est un élément composé, il ne peut pas alors être question, il ne peut être alors question que de plusieurs éléments. Mais alors, on peut à leur égard faire le même raisonnement. Ce quelque chose est donc en réalité autre chose qu'un élément et qu'un composé d'éléments. Il est la cause du fait que ceci est de la chair et cela une syllabe. Ce qui est vrai de la syllabe et de la chair est vrai de tout composé qui possède une unité propre dans l'ordre de l'être. Ce qui est cause du fait que ceci est telle réalité composée, c'est sa substance. Vous voyez la manière dont il le montre. C'est une induction dont il se sert de deux exemples. Il faut nous faire comprendre que c'est par l'unité du composé, l'unité dans l'ordre de l'être du composé, que nous pourrons saisir ce que c'est que la substance. Puisque ce composé possède l'unité dans l'ordre de l'être, il faut donc autre chose que les éléments pour expliquer cette unité. Et ce quelque chose d'autre que les éléments qui expriment l'unité, c'est proprement le principe et la cause, c'est ce que nous appelons substance. La substance, c'est la cause première du fait d'être. Donc, vous voyez, la définition qu'il donne, définition n'est pas une définition, c'est la découverte qu'il donne en disant que la substance, c'est altion, proton, tout einam. Donc, c'est altion, proton. C'est la cause propre, première, de ce qui est, et du fait même qu'il est. Autrement dit, c'est la source de l'unité de l'être. C'est la source de l'unité de l'être existant. C'est la cause de cette unité de l'être existant. Il précisera ensuite que la substance, c'est le principe et la cause selon la forme de ce qui est. Bon, je m'arrête là, vous voyez, parce qu'une fois qu'on a fait cette forme, sur le terme du livre Zeta, je le reprendrai quand les esprits seront plus si vous voulez, plus reposés. J'en reviendrai peu rapidement là-dessus, parce que, encore une fois, il y a le séminaire. Alors, je vous souhaite de bons examens et puis de bonnes. Et qui permet aux phares de s'entretenir. Vous voyez ? Vous avez là, je crois, toutes les échelles qui sont toujours intéressantes à voir, parce que c'est, je crois, la signification qu'on met autour du repas qui représente tout un climat de culture. Ça remet tout un climat de culture, la signification. Alors, vous avez la perspective de Platon qui sont les deux extrêmes. Le manqué des sages, tout le monde sous la table, on n'a pas tant qu'ils sont sages. Alors, le Socrate, leur logique complète. Mais ça n'a pas d'importance. Ils sont sages, ils ont donné leur discours. Alors, seul Socrate demeure debout. Donc, nous avons ce banquet rituel qui domine tout. Puis, nous avons le banquet qui permet de voir si le guerrier est un vrai guerrier. S'il est capable uniquement de laver l'eau, mais pas si c'est au fond le critère. Est-ce qu'il est capable de passer sans s'arrêter? Alors là, il est vraiment un guerrier, au sens fort. Et puis alors, le banquet éducatif des enfants et le banquet qui permet la détente des hommes politiques. Entre eux, n'est-ce pas, et qui permettent à ce moment-là de renouer les amitiés qui, au point de vue politique, c'était un peu difficile. Alors nous continuerons la Platon et la République au sommet. C'est un jugement dépendant d'un autre. Donc, à ce point de vue-là, dans la conclusion, il n'y a rien de nouveau. Si. Donc, justement, la conclusion devrait être réduite. Oui. Doit faire une réduction de la conclusion principale. Je ramène la conclusion principale. C'est un procédé qui consiste à ramener la conclusion principale. La fin des réductions. Je ramène la conclusion au principe. C'est une réduction. Donc, le jugement de conclusion importe bien. Quatrièmement, donc c'est l'argument en dépendance de la chose. Quatrièmement, ce qui est plus important, c'est les jugements modaux. Il y a de fait une série de jugements qui s'expriment d'une manière modale. Il est possible que, il est nécessaire que, et quand on vous dit qu'il est possible que, il est nécessaire que saisit ce jugement? Que représente ce jugement? Eh bien, ce jugement est très proche d'un jugement de conclusion. Parce que si vous êtes attentif, quand vous dites qu'il est possible que, il est nécessaire que, ça provient toujours d'une hypothèse première. Et donc, c'est un jugement qui saisit une relation. Dans la conclusion saisit une relation. Ici, je saisis être. Là, je saisis le nécessaire. Là, je saisis la relation. On voit bien les différents aspects. L'intelligence dans ce jugement, dans un jugement de conclusion, l'intelligence saisit une relation. Puisqu'elle saisit toujours la conclusion en dépendant d'un principe. La conclusion est toujours ordonnée au principe et elle provient du principe. Donc je saisis, quand je saisis une conclusion, je saisis nécessairement une relation. Une relation dépendante. Or, quand j'exprime, il est possible que, il est nécessaire que l'homme meure. Quand vous dites ça, comme affirmation. Il est possible que l'homme ne meure pas. C'est pas impossible. Il est possible que, ça aura des circonstances particulières, donc la possibilité, c'est juste, pas seulement l'hibernation, il y aura d'autres conclusions. Mais il est possible que, ça peut être une espèce de souhait de désir de l'humanité, il est possible que l'homme ne meure plus. Il est possible que l'homme guérisse de telle maladie, ainsi de suite. Vous voyez, dans tous les jugements, disons, il est possible que, quand vous essayez de comprendre ce que représente un jugement modal, il est possible que, il est nécessaire que, le jugement ne porte plus sur l'être, sur la nécessité de l'être, mais le jugement porte sur le point de vue, justement, d'une certaine manière de concevoir une relation d'un point de vue à un autre. Donc c'est bien une relation. Donc le jugement modal, c'est une relation, vous évitez. Une relation de deux points, de deux aspects. Vous évitez l'homme relativement à la mort. Et vous essayez de saisir le lien qui existe entre homme et mort. Et vous dites qu'il est possible que l'homme meure, où il est nécessaire que l'homme meure. Et pendant cette perspective, vous vous placez. Mais vous pouvez affirmer les deux. Il est possible que, il est nécessaire que, à ce moment-là, qu'est-ce que vous mettez en lumière? Vous mettez en lumière une relation qui existe entre le point de vue, dans cette affirmation, la relation qui existe entre le point de vue du sujet et de la vie. Vous ne saisissez plus proprement l'affirmation de l'être, mais vous saisissez une certaine modalité, c'est pas qu'on dit, des jugements de côté, en réalité, c'est une relation. Et je crois que ce sont les grands types des jugements. Cherchez bien, sinon, je crois que ce sont les grands types de jugements. Vous pourriez aller un peu plus loin, si vous voulez, et dire qu'il y a encore d'autres aspects des jugements qu'on pourrait appeler les jugements pratiques, ou les jugements affectifs. Ce sont d'autres aspects des jugements. Mais ce sont des jugements plus complexes, qui au fond impliquent différents aspects de ces différents jugements, et puis surtout, il y a un autre élément qui intervient, qui est le point de vue affectif, le point de vue volontaire. Dans un jugement pratique, il n'y a plus que seulement, il n'y a pas l'intelligence face à la réalité, mais il y a l'intelligence sous la mouvance de la volonté, sous l'influence de la volonté, qui juge de telle ou telle manière. Alors ça, on le verra beaucoup plus, je n'insiste pas dessus, parce que moi, le jugement, ça nous donne vraiment quelque chose de plus. Mais nous verrons à propos de la vérité. Je reviendrai sur le problème de la vérité. Vous comprenez? Une fois qu'on a le jugement, il faudra parler de la vérité.